Oui, mes chers collègues, ainsi que le rapporteur de ce dossier l'a indiqué dans son propos, cette politique du phare a été mise effectivement en œuvre en 1994. Mais avant d'être mise en œuvre, cette politique avait fait l'objet d'un débat qui s'était déroulé dans cette enceinte le 23 octobre 1993. Alors, rappelons que le phare, nous ne partions pas à cette époque-là du NEA. La page n'était pas blanche parce que l'Assemblée départementale a toujours eu des politiques diverses d'aide, d'accompagnement aux communes rurales pour leurs aménagements et leurs équipements. Donc la philosophie initiale du phare était finalement de réunir, de faire la synthèse entre plusieurs autres petites politiques qui existaient et qui provoquaient une certaine dispersion. Donc il convient d'abord de rappeler des aides préexistées. Au niveau des membres de cette assemblée, nous sommes au moins 5, puisque c'était le 25 octobre 1993, nous sommes au moins 5 à devoir et pouvoir nous souvenir de ce débat, puisque siège encore parmi nous aussi bien André Fourcade que Jean Glavany, que Michel Pellieu, que Bernard Verrier et autres serviteurs. Nous étions 5 à avoir porté en quelque sorte sur les fonds baptismaux cette aide importante pour nos communes rurales. Et lorsque l'on relit les débats de cette séance du 25 octobre 1993, c'est tout à fait saisissant de voir à quel point les arguments mis en avant à cette époque demeurent aujourd'hui. En fait, on pourrait faire un copier-coller de ce qui s'est dit ce jour-là, il y a 22 ans, et ce que je vais relire, vous rappeler à l'instant. Parce que depuis la création du phare, à plusieurs périodes, on est revenu sur la discussion initiale pour remettre en cause les critères. Puisque les critères, il y a deux éléments à prendre en considération, ce sont les critères et puis la gouvernance de cette politique. Alors s'agissant des critères, j'observe par rapport à 1993, au 25 octobre 1993, qu'il y a une évolution. Évidemment objectif, donc notre acte, mais je dirais que nous sommes encore loin du compte de ce que nous souhaitions à l'époque. Et je veux dire aussi que je rappellerai aussi qu'il s'est passé le 25 octobre 1993 un événement très rare dans notre assemblée, puisque notre groupe de la Démocratie républicaine, à l'issue des débats, pour se désolidariser de ce qui allait être voté, nous avons quitté la séance. À cette époque-là, nous étions beaucoup plus nombreux au niveau de la Démocratie républicaine qu'aujourd'hui. Puisque, sachez-le, c'est notre histoire, c'est plus la polémique, c'est l'histoire, il y avait simplement une voie d'écart entre les élus de l'entente républicaine et la gauche départementale. Et donc, nous avons quitté, sous l'hémicycle, pour marquer notre désapprobation à ces critères initiaux. Alors, les critères initiaux demeurent, mais ils ont été légèrement amendés ici et là. Parce que au départ, c'était un tiers, et le critère fondamental, le plus important, c'était le nombre de clochers dans un canton. Donc ça pénalisait des cantons éventuellement plus peuplés, mais où il y avait moins de clochers. J'ai vu dans le canton où précisément il n'y avait pas beaucoup de clochers, ils étaient portables quand même, mais la population est comptée. Donc ça a été l'un des premiers éléments de contestation. Alors, 22 ans se sont écoulés. Et on peut dire que ces critères initiaux qui favorisaient de façon très importante les petites communes rurales, certes, dans des cantons très ruraux, on peut considérer que 22 ans plus tard, l'essentiel de ce qui devait être fait, de ce qui pouvait être fait en termes d'amélioration, de rénovation des bâtiments communaux, a été fait. Donc on peut, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez la majorité départementale a pris conscience que les critères devaient évoluer. C'est le cas de ce que vous nous proposez. Pour autant, je considère que le compte n'y est pas. Parce qu'on a toujours dénoncé la disproportion qu'il y avait entre les mieux lotis et les plus mal lotis. Alors la fourchette se réduit, et je rappellerai que quand on fait le ratio par habitat, le ratio par habitant et par canton qui bénéficie du phare, naguère, dès l'origine, dès le mois d'octobre 1993, il imprime supprimer des critères qui se traduisaient par une très grande discrimination entre les uns et les autres, puisque le rapport entre les mieux lotis et les plus mal lotis était de 1 à 4. Le ratio par habitant dans les cantons les moins lotis, c'était 50 euros par habitant, et dans les mieux lotis, c'était un peu plus de 200 euros par habitant. Bon, c'était quand même disproportionné la différence entre les mieux et les moins bien. Bon, alors, ceci a été amendé en ce sens que le tiers, il y a trois tiers, donc, qui nous sont proposés, mais néanmoins, on est loin du compte, parce que lorsque je fais le ratio par habitant en appliquant les nouveaux critères, eh bien, on n'est plus de 1 à 4, mais on est quand même de 1 à 3. De 1 à 3 entre les cantons, les moins bien lotis et ceux qui bénéficient d'une rente de situation. Donc, vous voyez bien que là, il y a une divergence profonde qui n'a pas changé au fil des années, qui demeure. Certes, il y a une légère amélioration, mais qui ne nous satisfait pas. Parce que si l'on avait voulu mettre sur pied un système équitable, puisque nos concitoyens sont égaux devant l'impôt. Mais en retour, il y a de telles disproportions selon qu'on a habité dans tel ou tel village que c'est quand même inacceptable. Donc notre sentiment, c'est que nous aurions dû, maintenant, 23 ans après, nous aurions dû appliquer un système basé sur une répartition par habitant, la même dans tous les cantons bénéficiaires du FARS, c'est-à-dire en s'appliquant à la moyenne départementale. La moyenne départementale du FARS par habitant, c'est à peine c'est 58 euros par habitant, en gros. 58 euros par habitant. Et là, nous aurions été dans un système équitable. Parce qu'il n'y a pas de raison que, selon que l'on est à l'est ou à l'ouest du Gave de Pau, dans deux communes de montagne de même population, eh bien, d'un côté, on a 77 euros par habitant, et de l'autre, on a 45. C'est inexplicable. Et on pense que l'on ne le comprenne pas. Donc, notre critique demeure. Nous prenons acte d'une amélioration du système, mais le compte n'y est pas, on n'est pas dans un système équitable. Le seul système équitable aurait été un ratio par habitant. Ça, c'est la critique de fond sur les critères. La deuxième critique porte sur la gouvernance de cette affaire, parce que, d'abord, la commission cantonale, telle qu'elle est écrite, elle est un peu plus large que ce que nous connaissions précédemment, puisque il est question d'ajouter aux conseillers départementaux du canton, constitués par les maires, les présidents des syndicats et communautés. Bon, alors les présidents des syndicats et communautés n'étaient pas fléchés tant que tel de la guerre. La plupart du temps, on peut espérer, ça sera je pense très souvent le cas, on peut espérer que les maires qui sont là sont aussi les présidents de leur intercommunalité. Donc là, il n'y a pas d'inflation craindre, mais les présidents de syndicats, c'est encore autre chose. Il peut y avoir des présidents de syndicats dans tel ou tel secteur qui ne sont pas maires. Bon, alors, c'est pas grave, on élargira un peu le cercle, puis on est, plus jamais de foutre une rigole, mais bon, on élargira le cercle si c'est nécessaire. Mais on augmente donc la composition de cette commission. Et puis, s'agissant de la gouvernance, la critique qui avait été portée, j'ai repris le passage de deux collègues qui ont marqué de leur empreinte le passage de cet hémicycle, qu'il s'agisse de Roland Castel ou qu'il s'agisse de Pierre Fleur. Et là-dessus, et votre serviteur, nous nous étions tous exprimés pour dénoncer la façon dont les choses étaient présentées. Et nous avions dénoncé ce que nous considérions comme une mise sous tutelle, en quelque sorte, du conseil général, du canton, mise sous tutelle sous l'exécutif. La guerre, c'était pas Michel Pépé, c'était pas Jean-Paul Fassel, mais le dispositif est repris dans le texte. Roland Castel s'exprimait ainsi sur cette affaire. Vous créez les commissions cantonales que vous présiderez, c'est adressé au président, bien sûr. Quel rôle pour le conseiller général qui, lui, est bien élu de sa zone géographique? J'analyse votre projet comme une mise sous tutelle des communes, mais aussi comme une mise sous tutelle du conseiller général du canton. Donc ça s'exprimait pour la quelques instants après, dans ce débat, Pierre Bleuler reprenait la même critique en disant qu'il y a des choses qui me heurtent. Ce qui me heurte, ce n'est pas que le président assiste à ces réunions, mais qu'il la préside. Et il poursuivait en disant, vous avez dit tout à l'heure, François Fontassé, je reprends vos propos, car vous avez noté aussi que le conseiller général du canton était légitime, puisqu'il était élu, il est élu de ce canton. Et je ne vois pas pourquoi il ne présiderait pas cette commission cantonale. Alors François Fortassin, à ce moment-là, conseiller en disant, donc allez-vous, rien ne vous empêchera de venir au maire dans des réunions préparatoires, une préprogrammation. Mais c'était aussi la critique, de meurt, nous n'acceptons pas tout ce qui ressemblerait à un risque de tutelle de lui dans notre canton. Nous sommes légitimes, nous sommes dans une élection, nous sommes légitimes dans notre canton. Et nous n'accepterons pas cette tutelle. Donc je vous dis, c'est un copier-coller saisissant que nous pourrions faire entre nos débats et nos populaires. Et aujourd'hui, je vous explique que, mais je le répète aussi, nous ne sommes pas, parce que ça nous a été objecté pendant la récente campagne des élections départementales, nous ne sommes pas contre une politique d'aide aux communes, nous ne sommes pas contre le phare. On vote les 6 millions, 500 000 euros, mais nous avons toujours critiqué les critères inéquitables qui sont appliqués. Donc, comme précédemment, comme tout le temps, depuis le temps, nous voterons les 6 millions. Mais aujourd'hui, il s'agit de voter les critères. Mais parce que ces nouveaux critères ne nous conviennent pas, nous voterons contre ce qui est fait.
Très bien. Bon, avant de donner la parole à d'autres intervenants, nous demandons dans l'ordre Marie Verrier et ensuite Georges Stugeviel. Bon, je rappelle que ces débats, oui, vraiment, c'est un débat un peu longtemps. Bon, je vais observer quand même que globalement, le phare a fait ses preuves sur l'ensemble du territoire et qu'on n'a pas eu à subir d'attaque frontale. Moi, j'ai fait le tour à droite avec les cantons. Pas du jour au compte, mais bon, ça démontre bien que je n'ai pas présidé, tout au moins pour présider la commission cantonale, et je n'en fais pas un fromage. Quand je suis invité, j'y vais. Quand je ne suis pas invité, je n'y vais pas. Il n'y a pas question, il n'a jamais été question de mettre sous tutelle tel ou tel conseiller départemental ou conseiller général autrefois qui a sa légitimité sur le territoire. Bon, d'abord, on ne dit pas présider, on dit co-présider. Bon, quelque part, quelque chose de légitime pour le président du département de co-présider sans remettre en cause les programmations qui ont été faites par les élus au sein de chaque territoire. Et je fais confiance totalement aux élus de ce territoire pour répartir en bonne intelligence, en toute transparence, cette aide du phare, et on sait combien cette aide a été apportée. Après, pour ce qui est des considérations liées sur le fond, notamment la répartition par habitant, je regrette. La répartition par habitant n'a jamais été un critère. Elle a été souvent exclue dans tous les domaines. Je ne dis pas que le nombre d'habitants n'est pas un paramètre à prendre en compte, mais vous pouvez regarder tous les syndicats, tous les statuts des communes ou autres, et pour tenir compte, y compris de la richesse du territoire, de la richesse par habitant. Bon, si en plus je voulais aller au fond, vous regardez le phare dans les cantons, mais il faut regarder le phare et le feu. Parce qu'il y a des cantons qui ont des communes de plus de 1000 habitants qui ont du phare et du feu. Bon, et il faut globaliser phare et feu divisé ensuite par le nombre d'habitants. Alors qu'il y a des cantons qui ne marchent pas au feu, qui n'ont que du phare. Donc cette considération, je souhaite qu'elle soit prise en compte. Après, bon, on peut avoir une petite commune qui a un long linéaire de voirie communale. Et plus le linéaire est long, et plus la charge par habitant est lourde. Vous pouvez avoir, pour une même commune, vous avez souvent la place du village, la mairie, bon, l'église, les équipements, les bâtiments communaux qui font l'objet. Bon, quand qui est 200 habitants ou 300 habitants sur la commune ou 50, et le poids est le même. Donc, c'est surtout les éléments physiques que l'on prend en compte. C'est pour ça qu'on a essayé, à l'époque, de faire respecter ces critères. Alors, bon, je ne dis pas que tout est irréprochable, il y a toujours quelques disparités, mais globalement, bon, l'équité a globalement été respecté. Je souhaitais aussi que de plus en plus on prenne en compte la richesse par habitant, par contre, parce que bon, il y a des communes qui ont des richesses par habitant relativement élevées, et puis il y a d'autres qui n'ont pas de chaise comme ça. Bon, là, jusqu'à ces derniers temps, la voirie faisait quelque chose à la chaise de la commune, pouvait émarger à 70%. Bon, je souhaitais que, comme pour les bâtiments, la voirie obéisse aux mêmes règles que le modèle par habitant, pour faire en sorte que, c'est dans un moment où les fonds publics, l'argent public devient de plus en plus rare, qu'ils soient distribués avec le maximum d'équité et de rigueur. C'est le sens de la proposition qu'on vous fait. On a demandé également à majorer un peu les routes de montagne. Je peux vous dire que j'ai connu, vous visitez comme moi, ici, à une époque, un kilomètre de montagne, c'était 2 kilomètres de plaine. Et donc la dotation, je crois que Chantal me disait il y a quelques instants, il a été voté, je crois, à l'ADEME. Ce même ratio, 1 pour 2. Bon, ici, bon, afin de ne pas créer trop de disparité entre les secteurs de montagne et les secteurs de plaine, on a simplement majoré de 0,3. Je crois que c'est souhaité que cette remodélisation du phare tienne compte des considérations du passé, tout en essayant d'avoir quelque chose de plus équitable pour que l'ensemble des communes du département. Tout ce que je souhaite surtout, c'est pouvoir continuer à mettre en œuvre le phare, ce qui est loin d'être évident, regarde les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, mais je sais combien aussi les maires de ce département sont attachés à cette politique-là et combien ils comptent sur nous. Je l'ai dit, les services, je dis, n'essayez pas de m'expliquer qu'on va faire l'impasse sur le phare. C'est pas qu'on maintient pas 6 millions, peut-être qu'on va enlever, il y a quelques années, on a enlevé, je crois en 2011-12, on a enlevé 5%. Bon, j'explique pas devoir enlever 5%, je souhaite qu'on ne puisse rien enlever, on verra au moment de l'affinement, quand on sort du proche du budget, le niveau qu'on pourra maintenir. Mais il est clair que ça ne montera pas. Si on peut stabiliser, ce sera déjà une bonne chose. Bon, voilà un peu les quelques considérations, mais de grâce, le critère par habitant n'est pas un critère. C'est un critère complètement dépassé, qui ne prend pas en compte les réalités physiques du territoire. Les réalités physiques, je le dis, c'est les bâtiments, c'est les places, c'est le truc, c'est les linéaires de voirie, ça c'est les critères. Et en même temps, il y a la superficie aussi des communes, qui avait été un critère qui avait été pris en compte à un certain moment. Quoique, j'étais plus ou moins dans la cible. Bon, j'étais à la tête d'un petit canton, j'ai fait l'objet de ces critiques-là. Je ne suis pas pareil, je suis heureux aujourd'hui d'avoir le phare. Vous dire demain, il n'est plus. La vie continue, y compris à la taille de mon canton. Et puis, il y a un difficile un peu. Mais je fais observer quand même que je reverse quand même dans l'escarcelle du canton en tant que président de station de sport l'hiver, une taxe sur les remontées mécaniques, une taxe additionnelle de séjour qui compense globalement ce que m'octroie le phare. Donc je ne me sens pas totalement redevable, on est toujours à l'égard de la politique départementale, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces problématiques-là. Bon, tout simplement, je sais que j'avais été très ciblé à cette époque-là. Donc, je referme la parenthèse parce que je tourne la page, parce que c'est quelque chose qui a plus de 20 ans maintenant. Je ne sors pas polémiquer sur ce sujet-là. Merci Jacques. Merci Jacques. Dans l'ordre, Marie-Véry.
Merci Président, mes chers collègues. Contrairement à ce qu'a dit José Marthe, je pense effectivement qu'il n'est pas possible d'avoir une répartition du phare exclusivement basée sur les habitants, mais que, comme vous l'avez dit Président, il est absolument nécessaire de prendre en compte des critères physiques. Et je crois que le toilettage des critères que nous avons apportés et qui prennent en compte à la fois le contexte économique actuel marqué par les contraintes budgétaires, sans pour autant s'enfermer dans un carcan de critères, puisque c'est une politique volontariste, je le rappelle, qui laisse au conseiller départemental la possibilité donc de distribuer une enveloppe en tenant compte des critères physiques portés par les maires. Et dans les trois critères pour définir les enveloppes cantonales, la population en fait partie. On a retenu le nombre de communes, la population et la longueur de voirie communale. Je pense que cette répartition est juste. Le phare, donc ce fonds, est un fonds qui est particulièrement attendu par les maires, hein, puisque cela a été évoqué. Hein, je pense qu'il participe au soutien de l'économie locale, puisque ce sont des enveloppes importantes pour des communes, je dirais, je ne peux pas dire moins riches, je dirais moins riches. Et ce fonds permet d'être un levier pour l'investissement au niveau de ces communes, qui font appel à ce moment-là aux artisans, aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, et donc qui concourent au maintien de l'emploi. Et par ailleurs, quand on visite nos villages, ben on a plaisir à voir combien ils sont devenus accueillants, parce que les bâtiments communaux sont entretenus, sont bien aménagés, sont régulièrement revisités, parce que il y a 22 ans, si on a eu la sagesse de mettre en place ce fonds, eh bien, le vieillissement fait qu'on est obligé de revenir assez régulièrement pour avoir un entretien soutenu. Eh bien, ces villages, nos villages, font sans doute aussi le charme de notre département, étant donné qu'on sait que l'activité première de notre département, c'est le tourisme, on ne peut que se féliciter de pouvoir apporter ce concours et ce soutien à nos maires, fut-il modeste, mais combien attendu.
Merci Marie. Avant de passer la parole, si tu veux bien, juste un commentaire rapide. Bon, c'est vrai que, comme vient de le dire Marie-Stérie, beaucoup de choses ont été faites dans les villages. On s'aperçoit aujourd'hui même que la consommation de phare, elle porte moins peut-être sur les bâtiments et elle porte davantage sur la voirie. Parce que nous sommes les seuls financeur ou accompagnateur de la voirie. Aujourd'hui, l'État, au travers de la DETR, n'apporte plus d'aide pour la voirie. Nous sommes les seuls à accompagner les petites communes dans ce domaine-là, et c'est la raison pour laquelle, je leur ai dit, on avait introduit j'ai souhaité qu'on introduise la notion de richesse fiscale pour avoir l'équité la plus réelle. Georges Astuvel.
Monsieur le Président, chers collègues et chers collègues, le Fonds d'aménagement rural est un outil important au service de la solidarité territoriale et de l'action économique qui permet à notre collectivité d'accompagner les investissements de plus de 400 communes rurales et de montagne. Grâce au phare, auquel le département consacre près de 6,5 millions d'euros, ce sont près de 30 millions d'euros de travaux qui sont entrepris chaque année. Le phare constitue donc un outil au service non seulement des communes, mais aussi de l'emploi local, puisque ce sont des entreprises locales qui réalisent les travaux de voirie, de réfection des toitures des églises, de rénovation des logements et des bâtiments communaux. Aussi, vous l'aurez compris, j'y suis comme tous ici, fortement attaché. Et je formule le souhait que le montant de l'enveloppe allouée annuellement soit préservé. Je formule aussi le souhait que la nouvelle grande région préserve l'équivalent du phare baptisé Fonds régional d'intervention. Aussi, j'attire l'attention de Pascal Peraldi, future conseillère régionale, sur ce sujet. Pour ce qui concerne le nouveau règlement, en particulier la règle des trois tiers, la modulation du taux d'intervention en fonction de l'effort fiscal et la limitation à 2 ans, de la validité des aides. Notre groupe approuve ces nouvelles mesures.
Merci, M. Astuvel, pour votre contribution. Oui, juste avant de redonner la parole à José Marthe, je voulais dire que pour ces commissions cantonales, les présidents de communautés de communes ou de syndicats, s'ils ne sont pas maires, franchement ils sont les deux, ils ne sont invités que s'ils ont des dossiers. S'ils n'ont pas de dossiers, vous n'êtes pas obligé de les inviter. Après, bon, je laisse libre la commission cantonale d'agir avec une certaine autonomie. Mais une fois encore, bon, j'y vais quand on m'invite, je ne m'impose pas si je ne suis pas invité.
au terme de ces débats, que nous sommes opposés au phare. Mais moi, je souscris à tout ce qui a été dit sur les bienfaits de cette politique, et nous en souscrivons. Nous sommes tout à fait d'accord. Notre seule critique, porte, je le dis, sur les critères. Alors là, il y a des positions tout à fait différentes. Bon, mais on ne peut qu'en prendre acte. Je n'ai non plus stigmatisé personne. J'ai fait allusion à ceux qui avaient bénéficié précédemment, dans le système précédent, de largesse par rapport à d'autres qui avaient très peu, mais je n'ai stigmatisé personne. Ensuite, s'agissant, vous rappeliez, Michel Feigneux, que il y avait des cantons où il y avait, c'est le cas des cantons de Lourdes, il y avait feu et phare. Mais les ratios que j'ai calculés, ils ne portaient que sur la partie rurale. Je n'ai pas du tout la ville de Lourdes dont bénéficie le feu. Et les ratios que j'ai calculés, c'est sur les habitants ruraux, les habitants ruraux du canton de Lourdes, exclusivement, bien sûr. Et enfin, je voudrais rappeler aussi, cela mérite d'être dit à l'instant, c'est qu'au fil des années, depuis la discussion initiale, les critiques sur les critères n'étaient pas le monopole de la seule entente républicaine. Je pourrais aussi reprendre les PV de séance que nous avons eues là-dessus, où c'était toute formation politique, aussi bien sur les rangs du Parti Socialiste que sur les rangs du PRG, que les points se sont élevés sur le fait que ces critères devaient être utilisés. Nous n'avons pas le monopole de cette critique. Je tiens à le préciser. Telle était la réponse.